Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Le processus du départ de la MONUSCO de la RDC, la paix dans la partie est du pays et le processus électoral en République démocratique du Congo au menu des rencontres que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a eu hier ici à Kinshasa avec les autorités et quelques responsables politiques du pays. Et puis, procès Tiébéa, des langues c'est des nous, les vérités continuent de tomber. Hier encore, on a assisté à des nouvelles révélations. Cette fois-ci, c'est le colonel Daniel Mukalai, comparaissant à titre de renseignant, a témoigné avoir été au courant de la planification depuis longtemps de l'assassinat de Tiébéa et l'argent était déjà sorti pour cela. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Lucien Toulou, team gouvernance du PNUD, qui appuie financièrement et techniquement les états généraux de la lutte contre la corruption qui se déroule ici à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La mise en œuvre du plan de transition et son exécution concrète pour les retraits de la MONUSCO, c'est autour de cette question que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des missions de maintien de la paix a échangé hier à Kinshasa avec le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Quelques ministres, en l'occurrence celui du plan de l'intérieur, des droits humains et du genre, ont assisté à cette rencontre. Jean-Pierre Lacroix donne ici un éclairage sur la mise en œuvre du plan de transition retenu de commun accord avec le gouvernement congolais. Il s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
On parle souvent du départ programmé, d'un plan de départ. Il n'y a absolument pas de plan qui aurait prédéterminé le départ inéluctable de la MONUSCO dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Parce que ça, ce serait un calendrier artificiel détaché de l'évolution des conditions dans le pays. Ce que ce plan contient, c'est un certain nombre d'objectifs qui sont prioritaires et qui sont liés notamment à des progrès dans la situation sécuritaire, à des progrès dans le retour de l'État là où il n'est pas encore assez présent ou là où il est absent, et d'autres critères importants, je pense notamment aux droits humains, à la promotion de la place de la femme également. Bref, toute une série d'objectifs qui feraient que si ces objectifs étaient atteints, les conditions seraient réunies pour que la MONUSCO graduellement s'en aille et cède la place à une forme différente de soutien des Nations Unies, une forme plus classique de soutien de la part des partenaires internationaux. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui nous avons un cap. Nous voulons travailler ensemble sur ces objectifs qui sont vitaux au regard de l'objectif central qui est la promotion de la paix, de la stabilité, de l'ancrage démocratique en République démocratique du Congo. Nous avons un contexte qui est encourageant avec les autorités congolaises et notamment le gouvernement. Et donc maintenant, nos collègues de la MONUSCO se retroussent les manches pour faire avancer la réalisation de tous ces objectifs.
Toujours hier, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, a aussi échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Les échanges entre les deux ont tourné autour des prochaines élections, des réformes institutionnelles en cours, de l'appui aux institutions, y compris les services de sécurité, pour le retour de la paix à l'est du pays, ainsi que le renforcement de l'ancrage démocratique. Accompagné de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, le diplomate onusien a assuré du soutien des Nations Unies dans la tenue des prochaines élections en RDC. Jean-Pierre Lacroix est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons parlé des questions de sécurité dans l'Est, des défis dans cette partie du pays. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la MONUSCO dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité, mais aussi le soutien au retour de l'État dans cette partie du pays. Nous avons aussi parlé de la perspective des élections, des réformes en cours, des discussions importantes qui se sont déroulées pour la préparation de ces élections, préparation pour laquelle nous sommes prêts. Les Nations Unies sont prêtes à apporter un concours dans la mesure, évidemment, où ce concours serait attendu et souhaité par les autorités congolaises. Et enfin, nous avons parlé de la question du renforcement de l'ancrage démocratique, de la promotion des droits de l'homme, y compris la promotion...
Une autre rencontre, c'est celle que le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix a eu avec les leaders de l'opposition congolaise. La délégation de la Mouka conduite par son leader Martin Fayulu et celle du FCC dirigée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. La sécurité dans l'est du pays et le processus électoral en RDC ont été parmi les questions abordées. C'était en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Madame Bitoun Keïta. Honoré Missenga Kalala.
C'est au quartier général de la MONUSCO, à Kinshasa, que les rencontres de Jean-Pierre Lacroix avec ses interlocuteurs congolais ont eu lieu. Martin Fayulu a été le premier à être reçu avec sa délégation. Son interrogation au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est.
La MONUSCO fait des patrouilles avec les FRDC, mais on continue de tuer à Ituri, on continue de tuer à Beni, on continue de tuer donc dans tout le Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe ?
Concernant la problématique du processus électoral, le leader de la MOCA a développé sa lecture des faits devant le numéro 2 des Nations Unies.
Nous avons parlé de la situation des élections à venir. Monsieur Félix Tshisekedi s'organise pour soit tricher, soit glisser.
Même son des cloches dans le cas du FCC avec Raymond Tshibanda.
Tout le monde sait que le processus est biaisé. On est en train d'installer une commission électorale nationale qui, de toute évidence, est conçue pour être au service d'un camp politique contre les autres. Cela est inacceptable. Donc il est important que le consensus qui est indispensable pour créer les conditions de bonnes élections puisse être recherché maintenant.
Avant de poursuivre son balai diplomatique, cette fois avec les officiels congolais à l'hôtel du gouvernement et à la présidence de la République, Jean-Pierre Lacroix s'est également entretenu, toujours au siège de la mission onusienne, avec une délégation paritaire hommes-femmes de la société civile.
Pendant ce temps, c'est Moïse Katumbi qui écrit au chef de l'État en rapport avec la désignation des membres de la CENI. Il demande au président Félix-Antoine Tshisekedi de rejeter purement et simplement la liste entérinée par l'Assemblée nationale. Selon le président d'ensemble, cautionner les irrégularités qui ont émaillé le processus d'entérinement des membres de la CENI conduira inévitablement le pays vers un nouveau cycle de désordre. Dans la même correspondance, Moïse Katumbi demande à Félix-Antoine Tshisekedi d'imposer aux responsables de l'Union sacrée le respect des textes, afin, dit-il, de ne pas y laisser prospérer les antivaleurs, notamment la corruption, les débauchages, l'achat des consciences contre lesquelles vous avez engagé une lutte sans merci. Depuis Lubumbashi, Jean Ngandou nous fait l'économie de cette correspondance.
Dans cette lettre, Moïse Katumbi commence par rappeler au président Félix Tshisekedi que le 23 octobre 2020, il a engagé des consultations nationales afin de trouver des solutions aux problèmes du pays, dont les trois premières urgences furent le rétablissement de la paix, l'organisation des élections crédibles dans le délai constitutionnel et le renforcement de l'état de droit. Il lui rappelle qu'en tant qu'opposition républicaine, ils ont accepté d'accompagner le président de la République dans cette voie en lui transmettant leur cahier de charges qui réprimait l'ensemble de leurs propositions visant le redressement du pays. Dans le souci d'éviter au pays un nouveau chaos électoral, nous avions proposé un arsenal de dispositions visant à crédibiliser la CENI en mettant l'accent sur la désignation du président de la CENI par consensus sur le ou les candidats proposés par les confessions religieuses, écrit Moïse Katumbi, et d'ajouter, je le cite, « Alors que nous nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la CENI un homme politique controversé ont repris. La contestation a gagné les institutions. » Fin de citation. J'en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter le pays dans de nouveaux déchirements aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple congolais, affirme-t-il. Enfin, Moïse Katumbi précise qu'ils ne sont pas à la recherche des postes. Par contre, ils demeurent soucieux de préserver les valeurs de la République, au rang desquelles figure le consensus qui demeure le ferment de la cohésion nationale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Par ailleurs, l'appel de Martin Fayulu aux forces sociales et politiques à faire un bloc contre ce qu'il appelle la dictature fasciste suscite des réactions. Le Front commun pour le Congo FCC, par exemple, dit qu'il ne tolérera pas des dérives dictatoriales. Joint par Radio Okapi, Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent du PPRD, ajoute que le bloc avec Martin Fayulu s'est défini par le seul objectif de défendre l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ferdinand Kambéré est joint par Paul Matindou.
Tous les décors d'une dictature est en train d'être planté, c'est-à-dire que tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme qui est le président de la République, parce que lui-même avait avoué au niveau de VOA qu'il a instruit Mbosso et on a vu Mbosso s'adresser à la Cour constitutionnelle qui a rédigé un arrêt juste au bénéfice pour couvrir ce forcing. On ne tolérera pas des dérives dictatoriales.
Donc, vous êtes prêt à faire un bloc avec Martin Fayulu?
Nous nous allons avoir certainement les mêmes objectifs qui vont nous unir. Il y aura conversion, peut-être d'action aussi, dans l'avenir.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, encore de nouvelles révélations faites hier mercredi à l'audience publique du procès du double assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana. Comparaissant à titre de renseignant, le colonel Daniel Mukalai a témoigné avoir été au courant de la planification depuis longtemps de l'assassinat de Tchebeya et l'argent était déjà sorti pour cela. Les policiers Jacques Mugabo et Doudou Ilunga l'ont chargé et ont affirmé avoir enterré Bazana dans une parcelle du général Zelwa Katanga Djadjidja à Mitendi. Reportage Jeff Ngoy.
Tout en rejetant sa participation à ce double crime, Daniel Mukalai traite le général John Numbi d'un malicieux qui a voulu lui faire porter le chapeau en contrepartie de l'argent qu'il aurait refusé. Crime d'État, réagit l'avocat des partis civils Peter Ngomo.
C'est une bonne chose parce que cela, vous savez, même aujourd'hui, on a entendu parler de général Jean-Claude Yav, qu'à lui, on aurait proposé 40 000 dollars. C'est vraiment une grande nouvelle qu'on n'a jamais appris cela avant pour tuer Tchebeya. Mais il aurait décliné l'offre parce que disant que 40 000 dollars n'était pas suffisant pour lui. Et nous avons voulu bien qu'il revienne à une audience prochaine pour nous dire qui lui a proposé 40 000 dollars pour tuer Tchebeya. Aujourd'hui, tout le monde sait, comme on a toujours soutenu que c'était un crime d'État. Aujourd'hui, vous voyez, tous ceux dont on parle là, ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont des grandes personnalités du pays, qui ont eu effectivement à plonger d'une manière ou d'une autre dans l'assassinat de ces deux défenseurs des droits de l'homme.
Accusé d'avoir entretenu un cimetière dans sa parcelle où serait enterré Bazana, le général Zelwa Djadjidja ne reconnaît rien.
Ce ne sont pas ceux qui sont venus, qui ont creusé les trous. On a trouvé un trou déjà creusé. Qui a creusé ce trou-là? Si dans sa partie, il n'y avait personne. Il n'est pas que se défendre, c'est son droit.
Une table ronde de deux jours s'est ouverte hier mercredi ici à Kinshasa sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes graves en RDC. Cette rencontre est organisée sous la houlette de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Hormis le fonds national, la table ronde entend aboutir à une politique nationale de réparation au bénéfice des victimes. D'où la présence à cette cérémonie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de qui les participants attendent un suivi dans l'exécution des recommandations. Billy Van Lutumba.
La cérémonie s'est ouverte sous un fond d'émotion avec le récit de plaidoyer d'une représentante des victimes des violences sexuelles qui a laissé toute assistance dans un émoi un peu plus indescriptible. Tassiana Mukanere.
Certaines femmes sont devenues inaptes à plusieurs activités après leur viol. C'est le cas de Marie qui s'est retrouvée depuis paralysée des membres supérieurs, qui a été violée pour la première fois à l'âge de 13 ans par un nombre d'hommes qu'on n'a jamais su. C'est aussi le cas d'Anne, qui a son âme, qui avait 65 ans, et avec une sonde pour évacuer ses selles et ses urines.
Le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, depuis l'étranger, a recommandé fermement au chef de l'État d'insister auprès des Nations Unies pour l'établissement d'un tribunal international et aussi...
Les chambres spécialisées mixtes ont envie de juger les crimes internationaux les plus graves commis en RDC depuis 25 ans.
En sa qualité de championne des préventions des violences sexuelles désignées par les Nations Unies, Denis Nyakeru a plaidé pour l'instauration par l'État congolais d'un programme de réparation administrative.
Il est plus qu'urgent d'assurer les réparations justes et adéquates aux survivants. Ce n'est pas un appel à l'aide que je lance, mais un cri d'alerte. C'est la voix des survivantes que je veux faire entendre ici devant vous. Elles ne demandent rien d'autre que justice soit faite, que les préjudices subis par elles soient réparés.
Signalons que cette table ronde devra définir les pistes et supports nécessaires qui permettront la création de ce fonds national de réparation.
Et puis l'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Sarah Zeid de Jordanie, a clôturé hier mercredi une visite de 3 jours au sud Kivu. Elle est en même temps conseillère spéciale du PAM pour la santé de la mère et de l'enfant et la nutrition. Elle compte maintenant solliciter un engagement accru des autorités du pays et des membres de la communauté diplomatique qu'elle a à Kinshasa pour trouver des solutions adaptées sur les questions de malnutrition. Cynthia Bassizi.
Au terme de son séjour, Sarah Zeid de Jordanie est consciente que la lutte contre la malnutrition est un grand défi qui doit nécessiter l'implication de tous les acteurs clés. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu des autorités, des mamans, des enfants, des collègues du PAM sur terrain ou dans la capitale, je vais le remonter à Kinshasa. En effet, dans les 2 prochains jours, je compte rencontrer les membres du gouvernement et ceux de la communauté diplomatique pour passer tous les messages recensés. Pour le représentant du PAM en RDC, il n'y a aucun doute que cette visite aura des retombées bénéfiques pour l'agence onusienne. Peter Moussoko.
Le plaidoyer est une des outils les plus fortes de changement. Je suis convaincu qu'avec son influence, ça pourrait être vraiment un outil pour nous de changement.
Abou Kavou, Sarah Zed de Jordanie, a échangé avec des survivantes de violences sexuelles. Aminova, elle a visité un centre de santé bénéficiaire des intrants alimentaires du PAM et le centre d'alphabétisation destiné aux femmes agriculteurs et leurs enfants. C'est la deuxième visite de Sarah Zed en RDC. Elle s'était déjà rendue en 2018 dans les provinces du Tanganyika et du Kasaï Central, toujours à l'initiative du PAM. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, lancement ce jeudi du deuxième forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC. L'événement sera présidé par le chef de l'État en présence de plusieurs dirigeants nationaux, dont le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, des gouverneurs de province, des parlementaires et plusieurs partenaires. Tous vont renouveler leur engagement en faveur du financement durable pour la vaccination et la couverture vaccinale en RDC.
Actualité internationale.
Au cours de son interview à France 24, Laurent Gbagbo est revenu sur sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l'affaire du casse de la BCAO, alors qu'il était enfermé à la Cour pénale internationale. L'ancien président l'a rejeté. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, il est libre de ses mouvements, mais n'a toujours pas bénéficié d'une grâce ou d'une amnistie. Mercredi 20 octobre, le gouvernement a répondu à l'ex-chef de l'État. Il demeure poursuivi dans cette affaire.
L'invité.
Comment renforcer la dimension de la répression de la corruption au-delà du travail que font l'Inspection générale des finances, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, les cours et tribunaux, afin de faire développer la RDC? C'est parmi tant de questions auxquelles s'attellent à répondre les participants des États généraux de la lutte contre la corruption en cours ici en RDC. Pour en parler, Radio Capi reçoit Lucien Toulou, team gouvernance du PNUD, qui appuie financièrement et techniquement ces états généraux. Il s'entretient avec Jeff Ngoy. Suivez.
Lucien Toulou, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces états généraux comme résultat concret pour éradiquer ces phénomènes, si pas l'endiguer?
Alors, de manière générale, ce que nous faisons rentre dans le cadre des priorités du gouvernement en matière d'appui à l'état de droit et en matière de lutte contre l'impunité. L'organisation des états généraux de la lutte contre la corruption offre un moment d'arrêt pour évaluer les efforts de la RDC en matière de lutte contre la corruption, examiner le cadre juridique et institutionnel qui permet de lutter contre la corruption et dégager un certain nombre de pistes de réformes qui permettraient à la lutte contre la corruption d'être beaucoup plus efficace de manière à permettre à la RDC d'atteindre ses objectifs de développement.
Vous parlez du cadre légal qui réglemente la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la société congolaise et qui freinent même son développement. Est-ce que vous pouvez nous situer au moins ce cadre qui réprime ces fléaux?
Alors, lorsqu'on parle de cadre ici, c'est pas simplement les textes, c'est d'abord le cadre stratégique, c'est-à-dire la vision. Comme vous savez, il y a eu un forum national anticorruption en 2009 qui a abouti à la mise en place d'une stratégie nationale anticorruption. Donc, la question, c'est de savoir si cette stratégie doit être réactualisée de manière à offrir une vision générale dans le cadre de la lutte contre la corruption en RDC. Donc, au-delà de ce cadre stratégique, il y a le cadre juridique, c'est-à-dire les textes. Vous avez évoqué les textes internationaux auxquels la RDC a souscrit. Vous avez aussi le cadre juridique national. Est-ce qu'il y a lieu pour la RDC d'avoir une loi spécifique anticorruption? Est-ce qu'il y a par exemple lieu de procéder à une relecture du code pénal? Est-ce qu'il y a lieu d'élever un nombre d'immunités pour certains mandataires publics? Donc, c'est des questions qui doivent être posées et je ne perds pas de vue que ces questions-là pourraient être discutées lors de ces états généraux. Donc, on a le cadre stratégique, on a le cadre juridique, mais on a aussi le cadre institutionnel. Un certain nombre d'institutions, d'organes ont été mis en place pour lutter contre la corruption. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre a parlé de la création de la PLLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Il y a tout le travail qui est fait par l'IGF. Est-ce que ces institutions jouent efficacement leur rôle? Est-ce que ces institutions sont dotées des capacités nécessaires pour faire leur travail? Il y a la question aussi des institutions judiciaires. Est-ce que les institutions judiciaires en place aujourd'hui, est-ce que les parquets tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui peuvent activer cette lutte contre la corruption, où il faut mettre en place des parquets spécialisés, des tribunaux spécialisés, ou alors simplement renforcer les cadres et les institutions qui existent. Donc voilà autant de questions qui vont être discutés, me semble-t-il, tout au long de ces états généraux et qui permettraient de fixer un cap ou de renforcer le cap qui a été fixé dans le cadre de la lutte contre la corruption.
Toutes ces institutions qui existent, nous avons l'IGF, la Cour des comptes, les cours et tribunaux, selon votre analyse, il y a une faiblesse au niveau de notre justice?
Je n'ai pas à préjuger de ce que les états généraux de la lutte contre la corruption vont dire. Deuxièmement, je parle pour le compte des partenaires techniques et financiers, donc il n'est pas dans notre rôle d'évaluer l'efficacité ou non des institutions. Nous sommes là pour appuyer l'efficacité des institutions, donc il appartient aux Congolais, à travers des instances comme les états généraux de la lutte contre la corruption, de pouvoir répondre à ce type de questions, mais de manière générale, et un certain nombre d'intervenants l'ont dit à l'ouverture, la lutte contre la corruption, c'est pas simplement les textes, c'est pas simplement les institutions, mais c'est aussi une culture, c'est aussi la prévention. Donc, il appartient aux Congolais d'avoir ces débats-là.
Merci Lucien Toulou, je vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.